Vers la fin du mois d'août, on apprit que le légat, ayant terminé selon tous ses souhaits son ambassade auprès du nouveau roi, allait revenir à Rome. En effet, il y rentra le 5 septembre, c'est-à-dire 3 mois à peine après la mort du duc de Gandie, et le lendemain, 6, il alla de l'église Santa Maria Novella, à la porte de laquelle l'attendaient à cheval, selon la coutume, les cardinaux et les ambassadeurs d'Espagne et de Venise, au Vatican, où siégeait sa sainteté. Là, il entra dans le consistoire, où il fut reçu par le pape, qui, selon le cérémonial, lui donna sa bénédiction et l'embrassa. Puis, accompagné de nouveau et de la même manière par les cardinaux et les ambassadeurs, il fut reconduit à ses appartements, d'où il passa, aussitôt qu'il fut laissé seul, dans ceux du pape. Car au consistoire, il ne s'était point parlé, et le fils et le père avaient mille choses à se dire, mais non pas, comme on pourrait le penser, du duc de Gandie, car son nom ne fut pas même prononcé, et ni pendant ce jour, ni depuis, il ne fut plus question du malheureux jeune homme que s'il n'avait jamais existé. Il est vrai de dire que César apportait de bonnes nouvelles. Le roi Frédéric consentait à l'union proposée. En conséquence, le mariage de Sforza et de Lucrèce fut annulé pour cause d'impuissance. Puis il autorisait l'exhumation du cadavre de Jem, qui, comme on se le rappelle, valait 300 000 ducats. Alors, comme l'avait désiré César, ce fut lui qui, à la place du duc de Gandie, se trouva tout puissant après le pape, et les Romains s'aperçurent bientôt de cette vice-royauté, au pas immense et nouveau, que Rome fit vers la dissolution. Ce n'était plus que fêtes, bals et mascarades. C'étaient des chasses magnifiques, où César, qui commençait à rejeter sa robe de cardinal, dont la couleur peut-être le fatiguait, paraissait avec un habit à la française, suivi comme un roi de cardinaux, d'ambassadeurs et de gardes. De sorte que la ville pontificale tout entière, abandonnée comme une courtisane à ses orgies et à ses débauches, n'avait jamais été, dit le cardinal de Viterbe, même au temps des Nérons et des Héliogabales, plus ardente de sédition, plus chaude de luxure, plus sanglante de carnage. Jamais plus de mots n'avaient fondu sur elle, jamais plus de délateurs ne l'avaient déshonorée, jamais plus de sbires ne l'avaient rougi. Le nombre de voleurs était si grand et leur audace était telle que l'on ne pouvait franchir les portes de la ville. Bientôt même, on ne fut plus en sûreté au-dedans. Ni maison ni tour ne pouvaient vous défendre. Il n'y avait plus ni droit ni justice. L'or, la force et le plaisir étaient rois. Cependant, l'or fondait à ses fêtes comme à la fournaise et, par une juste punition du ciel, Alexandre et César commencèrent à convoiter la fortune de ceux-là même qui, par leur simonie, les avaient portés là où ils étaient. Le premier essai qu'ils firent de ce nouveau moyen de battre monnaie fut sur le cardinal de Cosenza. Voici à quelle occasion. Une dispense avait été accordée, il y avait quelque temps, à une religieuse professe, dernière héritière de la couronne de Portugal, dispense en vertu de laquelle cette religieuse avait épousé un fils naturel du dernier roi. Ce mariage était on ne peut plus préjudiciable aux intérêts de Ferdinand et d'Isabelle d'Espagne. Aussi envoyèrent-ils des ambassadeurs à Alexandre VI pour se plaindre d'un pareil procédé au moment où une alliance allait se conclure entre la maison d'Aragon et le Saint-Siège. Alexandre comprit ses plaintes et résolut d'y faire droit. En conséquence, il nia avoir eu connaissance de ce bref, pour la signature duquel il avait reçu 60 000 ducats, et accusa l'archevêque de Cosenza, secrétaire des brefs apostoliques, d'avoir délivré une fausse dispense. Sous le poids de cette accusation, l'archevêque fut conduit au château Saint-Ange et son procès commença. Mais comme ce n'était pas chose facile de prouver une pareille accusation, surtout si l'archevêque s'obstinait à soutenir que la dispense était bien réellement du pape, on résolut d'employer vis-à-vis de lui une ruse qui ne pouvait manquer de réussir. Un soir, l'archevêque de Cosenza vit entrer le cardinal Valentin dans sa prison. Il venait, avec cet air ouvert et affable qu'il savait si bien prendre lorsqu'il pouvait lui être utile, exposer aux prisonniers l'embarras dans lequel se trouvait le pape et dont l'archevêque lui seul, que sa sainteté considérait comme son meilleur ami, pouvait le tirer. L'archevêque répondit qu'il était tout aux ordres de sa sainteté. Alors César Borgia s'assit de l'autre côté de la table, sur laquelle il avait trouvé le captif accoudé lorsqu'il était entré et lui exposa la position du Saint-Siège. Elle était embarrassante. Au moment de contracter une alliance aussi importante avec la maison d'Aragon que l'était celle de Lucrèce et d'Alphonse, on ne pouvait avouer à Ferdinand et à Isabelle que, pour quelque misérable du cas, sa sainteté eût signé une dispense qui réunissait entre le mari et la femme tous les droits légitimes à une couronne sur laquelle Ferdinand et Isabelle n'avaient, eux, que des droits de conquête. Cet aveu rompait nécessairement toutes les négociations et la maison pontificale trouvait sa chute en heurtant le piédestal même qui devait servir à augmenter sa grandeur. L'archevêque de Cosenza devait donc comprendre ce que le pape attendait de son dévouement et de son amitié, c'était d'avouer purement et simplement qu'il avait cru pouvoir prendre sur lui d'accorder cette dispense. Or, comme le jugement apporté sur une pareille faute était remis à Alexandre VI, il était facile à l'accusé de concevoir d'avance que le jugement serait tout paternel. D'ailleurs, la récompense était aux mêmes mains que le jugement, et si le jugement était celui d'un père, la récompense, en échange, serait celle d'un roi. Cette récompense ne serait rien moins que d'assister comme légat et avec le titre de cardinal au mariage de Lucrèce et d'Alphonse, faveur qui lui serait bien due, puisque ce serait grâce à son dévouement que le mariage aurait eu lieu. L'archevêque de Cosenza connaissait les hommes auxquels ils avaient affaire. Il savait qu'ils ne reculaient devant aucun moyen d'arriver à leur but. Il savait qu'ils avaient une poudre qui avait le goût et l'odeur du sucre, dont il était impossible de distinguer la miction dans les aliments et qui faisait mourir d'une mort lente ou prompte, selon qu'il le désirait et sans laisser de traces. Il connaissait le secret d'une clé empoisonnée qui était toujours sur la cheminée du pape, de sorte que, lorsque sa sainteté voulait se défaire de quelqu'un de ses familiers, il lui ordonnait d'aller ouvrir certaines armoires. Or, la poignée de cette clé avait une petite pointe, et comme la serrure de l'armoire jouait mal, on serrait la main, alors la serrure cédait, et l'on en était quitte pour une légère écorchure. Cette écorchure était mortelle. Il savait enfin que César portait une bague qui se composait de deux têtes de lion, et dont il tournait le chaton en dedans lorsqu'il voulait serrer la main d'un ami. Alors les dents du lion devenaient des dents de vipère, et l'ami mourait en maudissant Borgia. Il céda donc, moitié entraîné par la crainte, moitié ébloui par la récompense, et César rentra au Vatican, muni du précieux papier par lequel l'archevêque de Cosenza reconnaissait qu'il était le seul coupable de la dispense accordée à la religieuse royale. Deux jours après, grâce aux preuves que l'archevêque avait bien voulu lui fournir, le pape, en présence du gouverneur de Rome, de l'auditeur de la chambre apostolique, de l'avocat et du procureur fiscal, prononça la sentence qui condamnait l'archevêque de Cosenza à la perte de tous ses bénéfices ecclésiastiques, à la dégradation de ses ordres et à la confiscation de ses biens. Quant à sa personne, elle devait être livrée au magistrat civil. Deux jours après, le magistrat civil se rendit à la prison pour accomplir sa mission telle qu'il l'avait reçue du pape et entra dans la prison de l'archevêque, suivi d'un greffier, de deux serviteurs et de quatre gardes. Le greffier déroula alors le papier qu'il tenait et lut la sentence. Les deux serviteurs dénouèrent un paquet et, dépouillant le prisonnier de ses habits épiscopaux, ils le revêtirent d'une robe de gros drap blanc qui ne descendait que jusqu'aux genoux, de caleçons pareils et d'une paire de gros souliers. Enfin, les gardes s'emparèrent de lui et le conduisirent dans un des cachots les plus profonds du château Saint-Ange, où il trouva pour tout meuble un crucifix de bois, une table, une chaise et un lit, pour toute distraction une lampe, une bible et un bréviaire, et pour toute nourriture deux livres de pain et un baril d'eau qu'on devait, ainsi qu'une fiole d'huile pour entretenir sa lampe, renouvelée tous les trois jours. Au bout d'un an, le pauvre archevêque mourut de désespoir après s'être rongé le bras dans son agonie. Le jour même où il avait été descendu dans le cachot, César Borgia, qui avait si bien conduit cette affaire, avait été mis par le pape en possession de tous les biens du condamné. Mais les chasses, les bals et les mascarades n'étaient point les seuls plaisirs du pape et de sa famille. De temps en temps, il lui donnait d'étranges spectacles. Nous en citerons deux seulement. L'un est un supplice, l'autre est tout bonnement une scène de haras. Mais comme l'un et l'autre offrent des détails dont nous ne voulons pas que nos lecteurs fassent honneur à notre imagination, nous les prévenons qu'ils sont traduits textuellement du journal latin de Burchard. Vers ce même temps, c'est-à-dire vers le commencement de l'année 1499, fut incarcérée une courtisane nommée la Corsette, qui avait pour amant un certain maure espagnol qui venait la voir en habit de femme et qu'on appelait, à cause de ce travestissement, la barbaresque espagnole. En expiation de ce scandale, tous deux furent conduits par la ville, elle sans chemise ni jupon, mais avec la seule robe du maure dont aucun bouton n'était boutonné, et qui, par conséquent, était ouverte par devant, et lui avec des habits de femme, les bras liés derrière le dos et les jupons relevés jusqu'à l'estomac, de manière que la partie qui avait péché fût exposée à tous les yeux. Lorsqu'ils eurent fait ainsi le tour de la ville, la Corsette fut renvoyée à sa prison avec le maure. Mais le 7 avril suivant, ce dernier en fut tiré de nouveau et conduit avec deux voleurs vers le champ des fleurs. Les trois condamnés étaient précédés d'un sbire monté au rebours sur un âne et qui tenait à la main une longue perche au bout de laquelle étaient liées, toutes sanglantes, les parties génitales d'un juif à qui on venait de les couper en punition du commerce qu'il avait eu avec une chrétienne. Arrivés au lieu de l'exécution, les deux voleurs furent pendus et le malheureux mort attaché à un poteau entouré de bois où il devait être brûlé. Mais une pluie abondante étant survenue, le feu ne put prendre malgré les efforts du bourreau. Cet accident imprévu, que le peuple prit pour un miracle, avait privé Lucrèce de la partie la plus curieuse de l'exécution, mais son père se réservait de la dédommager plus tard par un autre genre de spectacle. Nous prévenons de nouveau le lecteur que les quelques lignes que nous allons lui mettre sous les yeux sont encore une traduction du journal du bon allemand Burchard, qui ne voyait dans les événements les plus sanglants ou les plus lubriques que des faits journaliers qu'il enregistrait avec l'impassibilité d'un scribe, sans les accompagner d'aucune remarque, ni les faire suivre d'aucune réflexion. Le 11 de novembre, un certain paysan étant entré dans Rome avec deux juments chargées de bois, les serviteurs de sa sainteté, au moment où il passait avec elle sur la place de Saint-Pierre, coupèrent les deux sangles de manière que les charges de bois tombèrent à terre avec les bas et conduisirent les deux juments dans une cour qui est entre le palais et la porte. Alors on ouvrit les écuries et quatre étalons, libres et sans frein, se lancèrent à la poursuite des juments et avec de grands hennissements, des ruades et des morsures, les couvrirent après les avoir gravement blessés dans le combat. Le pape et Madame Lucrèce, qui étaient à la fenêtre située au-dessus de la porte du palais, prirent grand plaisir à ce combat et à ceux qui s'en suivit. Nous ferons comme Burchard, nous nous abstiendrons de toute réflexion. Cependant, la ruse de César Borgia à l'égard de l'archevêque de Cosenza avait eu le résultat désiré. Isabelle et Ferdinand ne pouvaient plus imputer à Alexandre VI la signature du bref dont ils s'étaient plaints. Donc, rien ne s'opposait plus au mariage de Lucrèce avec Alphonse, certitude qui causa une grande joie au pape, qui attachait d'autant plus d'importance au premier mariage qu'il en rêvait déjà un second entre César et Donia Carlotta, fille de Frédéric. En effet, César avait indiqué par toutes ses actions, depuis la mort de son frère, son peu de vocation pour la vie ecclésiastique, de sorte que personne ne fut étonné lorsqu'Alexandre VI, ayant rassemblé en matin le consistoire, César y entra et, s'adressant au pape, commença de dire que dès ses premières années, il avait été, par ses inclinations et son génie, porté vers les professions séculières et que ce n'était que pour obéir aux absolus commandements de sa sainteté qu'il s'était donné à l'Église, avait accepté la pourpre, les autres dignités et enfin l'ordre sacré du diaconat, que, comprenant qu'à son âge et dans sa situation, il était aussi inconvenant de s'abandonner à ses désirs qu'impossible d'y résister, il suppliait humblement sa sainteté de vouloir bien condescendre à ses penchants invincibles et de permettre qu'il déposât l'habit et les dignités ecclésiastiques afin qu'il pût rentrer dans le siècle et contracter un légitime mariage, priant en même temps les seigneurs cardinaux de vouloir bien intercéder auprès de sa sainteté à qui, de sa libre volonté, il résignait les églises, abbayes et bénéfices, ainsi que toutes les autres dignités et faveurs ecclésiastiques qu'il en avait reçues. Les cardinaux, faisant droit à la requête de César, remirent alors d'une voix unanime au pape la décision de cette affaire, et, comme on peut le présumer, le pape, en bon père et ne voulant pas forcer les inclinations de son fils, accepta la renonciation et fit droit à la supplique. Aussitôt, César déposa la pourpre, qui n'avait d'autre rapport avec lui, dit Tommaso Tommasi, son historien, quand ce qu'elle était couleur de sang. En effet, cette renonciation était urgente et il n'y avait pas de temps à perdre. Charles VIII, un jour qu'il avait été à la chasse et qu'il en était revenu tard et fatigué, s'était lavé la tête avec de l'eau froide et, s'étant mis ensuite à table, avait été frappé d'apoplexie aussitôt après son souper et était mort, laissant le trône au bon roi Louis XII, son successeur, lequel avait deux grandes faiblesses qui furent, au reste, aussi malheureuses l'une que l'autre. La première, qui était le désir de faire des conquêtes, la seconde, la prétention d'avoir des enfants. Or, Alexandre, qui était à l'affût de tout changement politique, avait vu du premier coup tout le parti qu'il pourrait tirer de l'avènement de Louis XII au trône et se tenait prêt à profiter du besoin que le nouveau roi de France avait de lui pour l'accomplissement de son double désir. En effet, Louis XII avait besoin de son aide temporelle pour son expédition contre le duché de Milan, sur lequel, comme nous l'avons dit, il avait des droits du chef de Valentine Visconti, sa grand-mère, et de son aide spirituelle pour rompre son mariage avec Jeanne, fille de Louis XI, qui était stérile et monstrueusement difforme, et qu'il n'avait épousée que par la crainte que lui inspirait son père. Or, Alexandre était prêt à accorder toutes ces choses à Louis XII et à donner encore par-dessus un chapeau de cardinal à Georges d'Amboise, son ami, si, de son côté, le roi de France voulait employer son crédit à déterminer la jeune Donia Carlotta, qui était à sa cour, à épouser son fils. Aussi, comme cette négociation était déjà fort avancée, le jour même où César avait déposé la pourpre et pris l'habit séculier, ce vieil et constant objet de son ambition, le seigneur de Villeneuve, envoyé du roi Louis XII et qui devait ramener César en France, arriva à Rome et se présenta devant l'ex-cardinal qui, pendant un mois, lui fit, avec son luxe accoutumé et avec toutes les caresses dont il savait si bien entourer ceux dont il avait besoin, les honneurs de Rome. Après quoi ils partirent, précédés d'un courrier du pape qui ordonnait aux villes par lesquelles ils devaient passer de les recevoir avec toutes sortes de marques d'honneur et de respect. Au reste, même ordre avait été expédié par toute la France, où l'on donna aux illustres voyageurs une garde si nombreuse et où une population si empressée accourut pour les voir qu'après avoir dépassé Paris, les gens de la suite de César écrivirent à Rome qu'ils n'avaient vu en France ni arbres, ni maisons, ni murailles, mais seulement des hommes, des femmes et des rayons de soleil. Le roi, sous prétexte d'aller à la chasse, vint recevoir son hôte à deux lieues de la ville. Là, comme il savait que César tenait beaucoup au nom de Valentino, qu'il portait étant cardinal et qu'il continuait de porter encore avec le titre de comte, quoiqu'il eût résigné l'archevêché qui lui avait donné ce nom, il lui accorda l'investiture de Valence en Dauphiné, avec le titre de duc et une pension de 20 000 francs. Puis, après lui avoir fait ce don magnifique et avoir causé 2 heures à peu près avec lui, il le quitta pour lui laisser le loisir de faire l'entrée splendide qu'il avait préparée. Ce fut le mercredi 18e jour de décembre de l'année 1498 que César Borgia fit son entrée dans la ville de Chinon avec un appareil digne du fils d'un pape qui vient épouser la fille d'un roi. Le cortège se composait d'abord de 24 mulets couverts de caparaçons rouges ornés d'écussons, renfermant les armes du duc et chargés de bahuts sculptés et de coffres incrustés d'ivoire et d'argent. Puis venaient 24 autres mulets, couverts aussi de caparaçons, mais ceux-ci à la livrée du roi de France, qui était jaune et rouge. Puis, après ceux-ci, marchaient 10 autres mulets, couverts de satin jaune, avec des barres rouges en travers, et enfin 10 autres encore, couverts de draps d'or à bandes, et dont une bande était d'or frisé, et l'autre d'or ras. Derrière les 70 mulets qui ouvraient la marche, piaffés, tenus en bride par autant d'écuyers qui marchaient à pied auprès d'eux, 16 beaux chevaux de bataille. Ils étaient suivis de 18 coursiers de chasse, montés par 18 pages, tous de l'âge de 14 à 15 ans, dont 16 étaient habillés de velours cramoisi et 2 vêtus de draps d'or frisé, et si élégant que la richesse du costume de ses deux enfants, qui au reste étaient les plus beaux de tous, fit naître dans tous les esprits, si l'on en croit Brantôme, d'étranges soupçons sur les causes de cette préférence. Enfin, derrière ces 18 chevaux, marchaient 6 belles mules, toutes harnachées de velours rouge, conduites par 6 valets, vêtus de velours pareil à celui des harnais. Le troisième groupe se composait d'abord de 2 mulets, tout couverts de drap d'or, portant chacun 2 coffres dans lesquels on disait qu'était le trésor du duc, les pierreries qu'il apportait à sa fiancée et les reliques et bulles que son père l'avait chargé de remettre de sa part au bon roi Louis XII. Ils étaient suivis par 20 gentilshommes vêtus de drap d'or et d'argent, parmi lesquels étaient Paul Jordan Orsino et plusieurs barons et chevaliers des principaux de l'État ecclésiastique. Alors venaient 2 tambourins, 1 rebec et 4 soldats sonnant des trompettes et clairons d'argent. Puis, au milieu de 24 laquais, vêtus mi-partie de velours cramoisi et de soie jaune, messire Georges d'Amboise et monseigneur le duc de Valentinois, lequel était monté sur un grand et beau coursier harnaché fort richement, avec une robe de satin rouge et de drap d'or, mi-partie, toute brodée de perles et de pierreries. À son bonnet était un double rang de rubis gros comme des fèves qui jetait une si riche lueur qu'on les eût pris pour ces escarboucles qu'on ne trouve que dans les 1001 nuits. Il portait en outre un collier qui valait bien 200 000 livres. Enfin, il n'y avait point jusqu'à ses bottes qui ne fussent toutes lacées de cordons d'or et brodées de perles. Quant à son cheval, il était couvert d'une cuirasse de feuilles d'or d'une admirable orfèvrerie, de laquelle sortaient, comme des fleurs, des bouquets de perles et des grappes de rubis. Enfin, pour faire queue à tout ce magnifique cortège, derrière le duc venaient 24 mulets, couverts de caparaçons rouges à ses armoiries, et portant la vaisselle d'argent, les tentes et le bagage. Mais ce qui donnait à toute cette cavalcade un air de luxe merveilleux, c'est que tous ces mulets, ces mules et ces chevaux, étaient ferrés avec des fers d'or, si mal cloués, que plus des 3/4 restèrent en chemin. Luxe d'ailleurs dont fut fort blâmé César, que l'on trouva bien hardi de mettre ainsi au pied de ses chevaux un métal avec lequel on fait la couronne des rois. Au reste, toute cette pompe manqua son effet sur celle pour qui elle avait été déployée, car lorsqu'on eut dit à Donia Carlotta que c'était dans l'espérance de devenir son mari que César Borgia était venu en France, elle ne répondit rien autre chose, sinon qu'elle ne prendrait jamais pour époux, non seulement un prêtre, mais encore un fils de prêtre, non seulement un assassin, mais encore un fratricide, non seulement un homme infâme par sa naissance, mais plus infâme encore par ses mœurs et ses actions.